Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le compte de ce 11e cycle lunaire, déjà le 11e cycle lunaire, ce compte qui s'appelle « Sur la piste de la vérité ». La grande femme qui marche entendait le bruit du vent qui déferlait contre ses tempes et les coups de tonnerre résonnaient dans son cœur, faisant vibrer tout son corps. Elle vit l'estompe de verre sur la clairière qui marquait l'entrée de la forêt. En pénétrant sous les arbres, elle ralentit un peu son allure. Elle esquivait avec agilité les ronces, sans casser de petites branches ni déranger le sous-bois. Rapidement, elle traversa en silence l'épaisse étendue boisée à la poursuite de son but. Les pépiments de ceux qui ont des ailes s'arrêtèrent soudain, et la grande femme qui marche se retrouva stoppée, comme suspendue dans un silence. Lorsque son cœur ralentit enfin son rythme à tout rompre, elle put entendre le faible, presque imperceptible bruit d'un gros animal tout près de là. Elle fit attention pour se retourner et releva la tête pour regarder vers la cime des arbres. Son regard croisa celui d'yeux à l'éclat doré et perçant. Le gros chat était perché sur la robuste branche d'un sycomore, prêt à sauter sur elle. La grande femme qui marche rassembla tout son courage pour ne pas détourner les yeux de ce regard ancré sur elle, montrant par là son courage naturel, même confrontée à la bravoure d'une lionne des montagnes. Pour une raison inconnue, la lionne s'assit tout bonnement et, sans plus manifester d'intérêt pour la femme au-dessous, entreprit de se lécher les pattes et de lisser son pelage. La grande femme qui marche n'allait pas rester à attendre la suite. Elle déguerpit par l'espace qui s'ouvrait devant elle et continua son chemin en grande hâte. Elle retrouva bientôt sa foulée, qui permettait à son corps de garder l'équilibre à partir de son centre de gravité. Sans que son pied heurte ou écrase de brindilles, elle avançait comme si elle flottait sur le sol de la forêt primitive. Elle coupa à travers les broussailles et se tailla un chemin jusqu'à un sentier parsemé de violettes sauvages et de fraises, à l'oreille de la forêt, qui bordait un petit cours d'eau. La grande femme qui marche traversa le ruisseau en trois enjambées, éclaboussant d'eau tout autour d'elle et bondissant souplement sur la colline de l'autre côté, couverte de verges d'or et de trèfles rouges. La mère de clan savait que c'était la dernière ligne droite de sa course, et elle concentra toute sa force dans ses jambes puissantes. Elle courut sans s'arrêter, dépassant une prairie jonchée de tiges aux grains dorés et gravissant la dernière colline en larges enjambées. Monter la pente était difficile, mais la mère de la persévérance fit face au défi en changeant son allure et en respirant plus profondément malgré sa poitrine qui lui faisait mal, pour inciter son corps à s'ajuster au nouveau rythme de la fin du parcours. Quand la grande femme qui marche arriva au sommet, elle fut accueillie par les visages ébahis de ses amis du clan de loup, la tribu avec qui elle avait passé l'hiver. Ils comptèrent alors un quart du temps du trajet de Grand Père Soleil à travers la nation du ciel avant qu'un autre coureur n'apparaisse. La course était un jeu d'été qui développait camaraderie et compétition constructive et que la mère de clan utilisait là pour enseigner au clan de loup l'endurance et la persévérance. La nuit venue, alors qu'ils étaient rassemblés autour du feu sous les étoiles qui scintillaient, leur ventre rassasié par un festin, la grande femme qui marche saisit l'occasion pour les instruire. Elle était connue pour s'exprimer en peu de mots. Les membres du clan de l'eau l'écoutèrent donc avec attention. Elle leur parla de l'intérêt de diversifier leur chemin dans la forêt, de trouver de nouvelles façons d'aborder leurs tâches habituelles, et leur expliqua de quelle manière elle s'y prenait pour gagner une course. Elle repérait le trajet et traçait un nouveau parcours, plus court, qu'elle empruntait lors de l'épreuve. Maintenant que les lunes d'été et du temps des semences étaient passées, elle s'offrait à expliquer aux humains du clan de l'eau comment elle arrivait à se déplacer sur n'importe quel terrain sans déranger la moindre feuille. Les chasseurs et traqueurs n'étaient pas certains qu'une femme puisse leur apprendre le savoir-faire qui leur était habituellement enseigné par d'autres hommes, mais la mère de clan avait gagné la course, et par conséquent, le pari de battre tous les hommes engagés dans la compétition. Très surpris, les hommes commencèrent à la regarder autrement. Quelques-uns se réjouissaient même qu'elle puisse leur enseigner de nouveaux savoir-faire qui les mettraient sûrement en bonne place au festival des moissons, au rassemblement de tous les clans de leur tribu pour rendre grâce pour la récolte abondante. La grande femme qui marche travailla avec les hommes du clan de l'eau pendant toute la période des lunes d'été. Ils passèrent du temps à observer chaque jour sa façon de faire pour acquérir de nouvelles compétences. Elle leur montra comment exécuter au mieux la plupart des activités qu'elle devait faire. Elle leur montra comment l'antilope, lorsqu'elle est pourchassée dans les plaines, se sert de sa grâce et de son sens de l'équilibre pour bondir à travers les hautes herbes. Ses élèves s'entraînaient à rebondir sur la pointe des pieds, ce qui leur donnait une autre démarche quand ils couraient. En ayant recours à la médecine de l'antilope, qui est grâce, promptitude et engagement, ils s'entraînèrent ensemble à marcher sur des troncs d'arbres couchés qui risquaient de rouler, ce qui les obligeait à ajuster leur équilibre à chaque pas. Les hommes du clan de l'eau découvrirent que leur centre de gravité était dans les hanches. Ils apprirent à utiliser leur vision intérieure pour rendre leur corps plus léger en se voyant eux-mêmes comme des antilopes qui pouvaient s'élancer, on aurait presque dit voler dans les airs, pour atterrir légèrement et sans bruit. La grande femme qui marche continua son entraînement en leur enseignant l'art de changer sa foulée, la manière d'utiliser l'intention de se propulser, la compréhension des rythmes du corps en mouvement, ainsi que la façon d'explorer des lieux. À aucun moment la mère de clan n'essaya de montrer qu'elle était supérieure aux hommes. Dans son rôle d'enseignante, elle ne cessait de les encourager et de soutenir leurs efforts. Elle s'assurait aussi que personne ne se moquait de ceux qui avaient le courage de s'essayer à apprendre quelque chose de nouveau. La grande femme qui marche montra à tout le clan qu'une action peut être deux fois plus efficace lorsque le nouveau savoir-faire a été affiné. Même les plus petits imitèrent leurs aînés en trouvant de nouvelles façons de participer aux travaux nécessaires à une vie de camp harmonieuse. La mère de l'innovation se réjouissait quand des jeunes découvraient de nouvelles manières d'être productifs, aussi bien que lorsqu'ils inventaient de nouveaux jeux accessibles à tous les enfants. Les femmes exultaient de voir leurs hommes revenir aux huttes à chaque coucher de soleil, avec le sourire et plein d'assurance à cause de ce qu'ils avaient accompli pendant la journée. Du fait que chacun des membres du clan se préparait aux compétitions du grand rassemblement, il n'y eut qu'elle pour remarquer que les ragots et les propos mesquins avaient cessé. Comme chacun était à l'œuvre, ils étaient tous heureux et n'avaient ni désir ni temps à gaspiller en de vains bavardages. La grande femme qui marche avait travaillé dur pour préparer le clan de l'eau à ses jeux de la fête du ralliement de leur tribu. Les talents de la mère de la persévérance furent payants, car le clan de l'eau sortit gagnant, marquant de beaucoup sur les autres clans étonnés. Pour la remercier de ses efforts, les hommes du clan de l'eau lui offrirent un cheval. La grande femme qui marche fut profondément touchée par ce geste, parce que les chevaux étaient rares en ces temps-là. La plupart des clans ne comptaient guère qu'une douzaine de chevaux pour plus d'une centaine de personnes, la majeure partie de leurs biens et bagages étant portés par leurs chiens fidèles. La mère de clan décida d'accepter le cadeau et prononça quelques mots concernant la médecine du cheval. Elle expliqua au clan de l'eau que le pouvoir de la médecine du cheval était dans le bon usage de ses dons, talents et capacités. Le cheval enseignait à ceux à deux jambes à équilibrer les dons des mondes visibles et invisibles. Comme le cheval, ceux à deux jambes avaient appris à être sur la terre, mais aussi dans le souffle du vent. Quand les deux mondes se rejoignaient, l'équilibre était atteint, ce qui permettait aux humains de voir la beauté de l'esprit qui vit et travaille à travers leur forme physique. Dans cette harmonie, pouvoir physique et pouvoir spirituel étaient en unité. Le cheval enseignait à utiliser la volonté, l'endurance, l'autorité et les talents d'une manière convenable, sans en abuser ni en mésuser. La grande femme qui marche remercia les hommes du clan pour leurs cadeaux et elle rendit grâce au grand mystère pour cette série de succès et pour les nouvelles compétences qu'ils avaient acquises. Elle était particulièrement reconnaissante du fait qu'ils aient lâché leur peur d'apprendre et d'entreprendre, car cette peur les aurait détournés de la victoire dans les jeux. La lune des feuilles rousses arriva, apportant bien d'autres enseignements au clan de l'eau. Après les moissons et les récoltes de nourriture sauvage dans la forêt, le clan se prépara pour l'hiver qui venait. La joie de la victoire maintenait le clan dans une énergie productive, et personne n'avait oublié les manières innovantes d'accomplir les tâches. Mais la mère de clan percevait un changement qui la troublait. Cette transformation subtile n'était pas notable pour les membres de son clan, mais en tant que gardienne de la façon de guider les hommes, elle avait conscience que quelque chose allait de travers. Il fallait éclaircir la situation et y remédier. C'est pourquoi la grande femme qui marche observa et attendit, continuant ses propres activités en silence, jusqu'au moment opportun. Mère Nature avait donné aux feuilles des arbres les couleurs brillantes du coucher de soleil. Elle avait amené aussi les premières gelées qui signalaient l'approche de l'hiver. La grande femme qui marche partit dans la forêt pour se retrouver seule. Elle voulait examiner les solutions qui s'offraient à elle pour aider les enfants de la terre à traverser les changements qu'elle percevait et qui pouvaient les détourner d'un comportement juste envers la vie. En effet, les disputes avaient recommencé entre les femmes, les hommes étaient mécontents, et entre les enfants, les prises de bec avaient remplacé la camaraderie d'avant, du temps des lunes jaunes de l'été. La grande femme qui marche s'allongea sur un lit de feuilles aux couleurs chaudes pour que la lumière de grand père soleil vienne réchauffer sa peau. Ce moment exceptionnel d'inactivité et de réflexion l'amena dans un état de conscience subtile où elle se trouva à chevaucher dans les vastes plaines d'un paysage donné par le rêve. Plus son corps devenait une extension vivante de son coursier, plus le galop se faisait rapide. La grande femme qui marche penchait la tête en avant. Ses cheveux se mêlaient à la crinière de son compagnon à quatre pattes, dont le nom était « Cours avec les vents ». Ensemble, ils galopaient à travers les steppes d'herbes dorées balayées par le vent, et elle exhortait les talons d'une légère pression des genoux. Les forêts des contreforts se rapprochaient en même temps que son esprit s'unissait à l'allure et au rythme puissant de l'étalon. Alors, sa perception changea, et elle vit à travers les yeux de cours avec les vents. Le changement de forme fut total lorsque la grande femme qui marche fusionna avec son compagnon de galop. Elle sentit le pouvoir des quatre jambes retentir sur la distance, à l'approche des contreforts. Un regain d'énergie monta dans son corps quand ils arrivèrent aux collines boisées. Cours avec les vents s'arrêta sous les arbres de la forêt, et la magie retomba lorsque les perceptions de la grande femme qui marche réintégrèrent sa forme humaine. L'exubérance et le sentiment de puissance qui la submergeaient continuaient cependant à courir à travers ses veines quand elle descendit de cheval. En attachant les talons pour le faire paître, elle eut la sensation d'être observée. Elle suivit son intuition et leva le regard vers les branches d'un chêne robuste, juste à temps pour voir la lionne des montagnes bondir et tomber gracieusement à ses pieds. Elle tourna très vite la tête vers les talons, mais vit qu'il n'était pas du tout intéressé par le gros chat. Le comportement du cheval la surprit, mais dans le temps du rêve, il n'existe rien de menaçant entre les animaux. Alors, elle se détendit. La lionne des montagnes, jouant de son effet de surprise, commença à parler. « Mère, tu marches avec moi depuis le début de ta vie physique, mais c'est seulement maintenant que tu as suffisamment ralenti pour que je puisse venir te parler. As-tu oublié ma médecine de guider, par l'exemple ?» Très étonnée, la grande femme qui marche resta sans voix pendant un moment. « Que veux-tu dire, Lyonne ? J'ai toujours fait en sorte que ma démarche respecte l'équilibre et que mes actes expriment mes intentions. Aurais-je oublié d'accomplir quelques devoirs ou de mener à bien une action pour montrer aux autres l'intégrité de ma démarche ?» Non, mère, tu as été un excellent exemple pour tes enfants. Tu t'es engagée dans les actions qui étaient nécessaires. Tu t'es toujours montrée bienveillante, attentive et franche. Tu as indiqué à tes enfants de nouveaux chemins et des façons innovantes de corriger leurs mauvaises attitudes, et tu les as incités à suivre les désirs de ton cœur. Mais tu n'as pas équilibré tes actes avec la force du non-agir. Tu as été si occupé par ce que tu avais à faire que tu as oublié de prendre le temps de réfléchir et de rassembler tes pensées, tes rêves et ton énergie. C'est la première fois au cours de ta marche sur Terre que tu t'es suffisamment détendu et reposé de ton exigence d'être un parfait exemple pour pouvoir laisser tomber les barrières qui t'empêchent d'être enfin un être humain. La grande femme qui marche s'assit, interloquée. Elle réalisait que la lionne des montagnes avait raison. Les larmes qu'elle avait retenues pendant tant d'hivers de sa vie humaine commencèrent à couler. Des sanglots la secouaient si fort de l'intérieur qu'aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Elle essayait de reprendre son souffle. La multitude des chagrins qu'elle avait ressentis en étant frustrée ou blessée par les façons d'agir des autres, elle l'avait enterrée dans les neiges de son cœur gelé. La grande femme qui marche était prête à abandonner l'illusion qu'il lui fallait être surhumaine. Dans ses efforts pour se présenter comme un exemple impeccable, elle avait enfui ses besoins humains en ne s'occupant que de ce qu'il y avait à faire. Sa conduite et son ambition d'être au mieux de sa personne l'avaient menée sur un chemin de solitude qui voulait qu'elle ne montre jamais ses sentiments. Elle avait placé toute son expérience spirituelle en dehors d'elle-même, ne laissant jamais en elle l'espace pour ressentir et intégrer les enseignements au plus profond de son humanité. Quand enfin elle reprit son souffle et cessa de pleurer, la lionne des montagnes continua. Guidée par l'exemple est un chemin de beauté, mère. Si tu es un exemple pour les autres êtres humains, il faut leur montrer qu'un humain ne doit pas être jugé quand il a des faiblesses. Permettre aux larmes de couler est le premier pas dans la transformation. Faire des erreurs est le chemin qui permet aux qualités de s'affiner. Tu as maîtrisé la persévérance, tu as maîtrisé l'innovation, tu as maîtrisé l'initiative. Maintenant, il est temps que tu t'autorises à devenir une femme avec des sentiments, un être humain. Cette vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Profondément enfouie à l'intérieur de toi, il y a la vérité dont tu as peur. Tu as senti que si tu ralentissais et prenais du recul quand tu en avais besoin, la vérité pourrait bien te rattraper. Cette vérité, c'est que tu es humaine. La lionne attendit un instant pour que ces mots touchent le cœur de la mère de clan. Puis elle poursuivit. Tu as développé ta constance, ton excellence, ta faculté de réconforter les autres, mais tu es terrorisée à l'idée de te réconforter toi-même. Quand tu pourras t'autoriser à montrer ta vulnérabilité en acceptant de t'en remettre à quelqu'un d'autre, cela voudra dire qu'enfin tu auras appris à te faire confiance à toi. Lorsque tu vas au-delà de ton endurance et t'échappes ainsi de la vérité de ton humanité, le signal que tu envoies au monde n'est pas celui que tu crois. Tu dis aux autres que tu es intouchable, n'arrêtant pas de t'activer du matin au soir. Tu as peur de la tranquillité parce que tu as peur d'affronter les critiques de ton ombre. Cette part d'ombre aimerait tant te raconter que tu n'es pas digne de repos ni de plaisir, ou d'une vie qui rassemblerait autour de toi de véritables amis qui respectent ton humanité, et un compagnon compréhensif qui t'aimerait pour qui tu es, et non pas pour les choses que tu accomplis. La grande femme qui marche sentit les larmes de la transformation couler doucement, comme de petits ruisseaux paresseux le long de ses joues. La vérité avait pris racine dans son cœur et la graine du changement avait été plantée dans son ventre. La gestation durerait jusqu'au temps où la mère de clan pourrait donner naissance à son nouveau soi, plus vulnérable. Elle s'assit et réfléchit à ce que la lionne des montagnes lui avait dit, puis demanda : Comment puis-je être un exemple pour les autres femmes, lionne des montagnes, alors que c'est pour moi-même que je dois apprendre ces enseignements? Tu es la mère de l'innovation. Dans le monde présent, la femme a choisi le rôle de prendre soin des autres. Mais l'équilibre est à trouver. La terre-mère est prête et désireuse de nourrir ses filles, mais ses filles doivent veiller à prendre le temps qui leur est nécessaire pour s'occuper d'elles-mêmes. Tu enseignes à tes enfants humains que le centre de gravité du corps est le pelvis. Pour les hommes, c'est à cet endroit que leurs testicules étaient nichés avant la puberté. Pour les femmes, cet espace est l'utérus. En tant que mère de la force créatrice, les femmes doivent comprendre leur rôle nourricier envers les graines des rêves de demain pour la famille planétaire, aussi bien que leur rôle de donner vie aux nouvelles générations. Dans cette tâche, toute femme doit s'engager à prendre le temps qui lui est indispensable pour se retirer durant ses règles, quand son vagin est ouvert à la lumière. Ce temps particulier de la lune est celui où la terre-mère nourrit toutes les femmes qui veulent bien passer quelques jours et nuits pendant leurs règles, en total silence, devenant ainsi les réceptacles de l'amour qui provient du grand mystère. Pendant les autres jours de leurs règles, elles peuvent rester en compagnie de leurs sœurs, partageant leur expérience, leurs réalisations artistiques, leurs pensées intimes. Au moment de leurs règles, les femmes ont le pouvoir de demander du fond du cœur à disposer de n'importe quelle énergie, parce que leur ventre est prêt à la recevoir. Voilà une nouvelle tradition que tu peux initier dans la tribu humaine et qui te servira à découvrir ta propre humanité. La grande femme qui marche vit la possibilité de créer une nouvelle tradition pour la femme qui permettrait à toutes les femmes de trouver leur équilibre. Elle comprit qu'une bonne partie des disputes des femmes du clan, par exemple, était probablement due à la fatigue et au fait qu'elles ne prenaient pas le temps de se ressourcer dans l'énergie d'amour de la terre-mère. Elles étaient souvent prisonnières de vieilles habitudes mesquines et capricieuses qui étaient venues avec ces moments d'épuisement. Dans son rêve, une large perspective se déploya. Le temps du rêve semblait toujours lui fournir des alternatives aux vieilles habitudes limitatives. La grande femme qui marche était à présent suffisamment calme pour avoir accès aux opportunités qui s'ouvraient devant elle. Quand elle revint de ce dont elle prenait conscience, la lionne des montagnes lui parla à nouveau. Jamais tu n'as eu pitié de toi, grande femme qui marche. Tu as adoré être active et tu as bien camouflé ton ombre, mais l'ombre n'a eu aucune pitié pour toi. Et elle t'a emmené au-delà des possibilités humaines. Tu as fait des promesses qui en réalité t'ont forcé à rester sous la coupe de l'ombre. Non pas que tu aies abusé de ton pouvoir de meneuse en heurtant les autres, mais c'est la confiance que les autres femmes plaçaient en toi en tant que modèle que tu as trahi. Tu t'es chargée d'être un exemple qui briserait le dos à n'importe quelle bête de trait. L'âne transporte la médecine de porter sur ses épaules sa responsabilité. Mais il sait aussi refuser et se braquer quand le fardeau est trop lourd. Il y a une très grande force intérieure dans le fait d'avoir de la compassion envers soi-même. Tu peux te permettre d'être un exemple pour les autres femmes en leur montrant que tous les humains ont droit au repos et au plaisir. L'exemple que tu donnes alors de consacrer du temps à ses besoins te libérera. Toi et toutes les autres femmes qui se tournent vers toi pour être guidées. L'excuse que tu n'as ni le temps ni l'espace pour prendre soin de toi ne te blesse pas seulement toi, mais elle est néfaste pour bien d'autres personnes, parce qu'elle donne à l'ombre son emprise. La lionne des montagnes attendit l'impact de ces mots